France Culture.
Question d'islam par Al Benchir. Aussi étonnant que ça puisse l'être, aujourd'hui, nous essayons de comprendre qu'est-ce que l'islam, qu'en est-il de l'islam, que veut dire le vocable islam, quelles sont les conceptions de l'islam dans cette émission et avec la prolifération d'ouvrages portant ce titre, qu'est-ce que l'islam, il y en a un particulièrement, c'est celui de Shahab Ahmed, paru en 2015, il y a 9 ans de cela, bientôt, et la question demeure. D'autres ouvrages portant le même titre, ne serait-ce que celui de William Montgomery Watt, qui dit « What is Islam ? Qu'est-ce que l'islam ?» et on n'arrive toujours pas à donner une réponse convaincante. Et pour aborder ce sujet, j'ai plaisir à accueillir Francesco Chiabotti, qui est islamologue et maître de conférence à l'INALCO, et Cédric Bailoc, qui est anthropologue, chargé de mission à l'Institut français d'islamologie et chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris. Merci, messieurs, d'avoir accepté de répondre, en tout cas, à cette question. Je dis tout de suite à nos amis auditeurs que vous êtes l'un et l'autre en liaison l'un au téléphone, l'autre via Reportit, et j'espère que la communication sera bonne tout au long de l'émission. Cédric Bailoc, de quoi s'agit-il au juste? Pourquoi pose-t-on encore la question sur qu'est-ce l'islam? De quoi s'agit-il au juste? Je connais même un ouvrage qui dit « Alors, c'est quoi l'islam ?» même si le titre n'est pas académique. Pourquoi tant de questionnements?
C'est pas la première fois que dans le champ académique, il y a des tentatives de synthèse et de répondre à cette question. Vous avez cité effectivement Montgomery Watt, on est dans les années 50-60, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, il y a les importants usuels de base, on va dire, classiques, qui essaient de traverser les époques et les aires géographiques pour caractériser ce qu'a pu être dans sa diversité l'expression du fait religieux musulman. Mais là, avec Shahab Ahmed, on a en 2015, donc pour la publication anglaise de l'ouvrage, et donc maintenant, grâce aux éditions Fenêtre en français, quand même une tentative systématique et très dense et passionnante, et donc qui ne fait pas l'économie des débats académiques pour la définition de l'islam de ces dernières années, en passant au crible en quelque sorte les réponses justement qui ont apporté, mais à travers des prismes différents, différentes disciplines par définition, qui ont apporté des réponses différentes, je disais, à travers que ce soit des anthropologues, des sociologues ou des islamologues. Et donc, voilà, c'est je trouve quand même un tour de force que de réussir à résumer ces débats, mais l'ambition, elle va même au-delà, c'est d'apporter lui-même sa propre réponse. Voilà, donc on ne va pas divulgâcher pour vos savants auditeurs la réponse qu'il y apporte, mais en tout cas, l'entreprise est assez fascinante et, de mon point de vue, convaincante.
Et de portée considérable.
Oui, absolument, et peut-être que j'ajouterai juste ceci avant de laisser volontiers la parole à Francesco. C'est l'année de publication 2015, qui est, comme chacun le sait, une année où on peut considérer que l'enjeu de définition de l'islam est importante et majeure de ce que suppose la définition de l'islam, de ce qu'elle renferme, Et donc, évidemment, en 2015, apparaît au plan géopolitique un mouvement, un courant qui se fait fort de son côté d'apporter une réponse à cette question, finalement, très, très directe et très, bien sûr, réductionniste et restrictive. Et donc, l'ouvrage paraît cette même année, et on a envie de dire que c'est presque une antidote à lui seul, cet ouvrage contre ces définitions essentialistes. Alors, au-delà des débats du champ académique, mais des définitions essentialistes qui peuvent être proposées par certains courants de l'islam, et même en dehors de l'islam, certaines définitions caricaturales qui peuvent en être faites. Là, tout de suite, on a, boum, un ouvrage de 600 pages qui tombe et qui dit, attention, les choses sont beaucoup plus complexes que vous ne le pensez.
Vous avez évoqué l'annus horribilis 2015, en tout cas en ce qui concerne la France, avec des attentats meurtriers, l'apparition sur la scène mondiale et pour des considérations géopolitiques. En réalité, ça remonte déjà à 2-3 années plus tôt d'une organisation terroriste dénommée Daesh qui a esthétisé la violence, théâtralisé la barbarie, etc. Tout cela au nom de l'islam. Donc Francesco Chiabotti, un des islamologues aussi, Hodgson, disait que l'histoire islamique est aussi comme une histoire mondiale, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le fait islamique, le fait religieux, mais aussi le fait civilisationnel, et l'histoire du monde.
Je vais effectivement répondre déjà à cette indication en disant que cet ouvrage que nous discutons aujourd'hui propose une géographie particulière. Donc, il sait que l'islam, c'est un phénomène global et malgré ses plus de 600 pages, pose néanmoins, disons, une chronologie et une géographie précise. Il va restreindre l'enquête pour donner des éléments de réponse. Et donc, dans cet ouvrage et dans la pensée de Chab Ahmed, nous allons parcourir une région particulière que lui-même définit comme allant des Balkans au Bengale. Donc ça, c'est assez particulier, parce qu'il y a de l'exclusion, si vous voulez, mais bon, je vais expliquer pourquoi. Et aussi, au niveau de la chronologie, bien évidemment, c'est une histoire globale dès les premières années, c'est-à-dire nous avons un phénomène qu'on appelle de conquête, mais en fait c'est un changement de paradigme civilisationnel qui très tôt, au 7e siècle, concerne une zone immense qui va de l'Espagne actuelle jusqu'au Landus. Donc lui, il va se concentrer sur cette région-là. Et après, au niveau de la chronologie aussi, il ne s'intéresse pas au débat des origines de l'islam, ni à l'islam, disons grosso modo, du Moyen-Âge, qu'on peut appeler soit l'âge d'or, soit l'âge de formation de l'islam dans sa pensée conceptuelle, mais il s'intéresse à tous les phénomènes que lui-même appelle post-formatifs. Et c'est ça qui l'intéresse, c'est-à-dire c'est quoi qui a produit l'islam après cette phase. Donc, c'est une histoire mondiale, mais dans l'ouvrage qui nous intéresse, elle est vue de l'angle d'une civilisation particulière dans laquelle Chiab Ahmed voit une unité qui nous n'apercevons peut-être pas forcément. Il va donc des Balkans au Bengale.
Parce que Chiab Ahmed fait, comme d'autres avant lui et après lui, la distinction entre la construction humaine qu'est l'islam, écrit avec grand T ou petit I, le fait islamique comme une œuvre in fine humaine, et le phénomène coranique qui, lui, concerne le moment mohammedien. À un moment donné de l'histoire de l'humanité, il y a une irruption de la révélation coranique. C'est ça la distinction ?
Je vais me référer pour vous répondre à une page écrite par le regretté Emilio Platti à propos de cet ouvrage, et il avait étudié la version anglaise avant la traduction, et il nous fait réfléchir, il met en relation, si vous voulez, le projet arkounien de Mohamed Arkoun et le projet ahmadien, c'est-à-dire de Chiab Ahmed. Et il nous dit que finalement, pour ce dernier, l'auteur qui nous intéresse aujourd'hui, on ne l'a pas encore dit, mais il faut savoir qu'il est décédé, peut-être, il est décédé...
En 2015, avant, oui.
Voilà, il est juste avant que le livre soit, oui. soit publié. Donc, nous sommes, nous, si vous voulez, il y a eu, pour expliquer aussi le pourquoi nous parlons aujourd'hui de ce livre, c'est parce qu'il y a eu une vague de choc. Parce que la communauté scientifique a connu cet auteur alors qu'il n'était plus de ce monde. Et il a laissé un vide d'autant plus important parce que la communauté scientifique, globalement, s'interrogeait sur la suite de ce projet.
Oui.
Si, dans un premier ouvrage, il a été capable de transmettre une érudition mais incroyable, la bibliographie impressionnante, et la réflexion sur cette bibliographie impressionnante, qu'est-ce qu'il aurait fait par la suite? Mais ça, voilà, ça, je le dis parce que c'est important. Nous sommes face au génie. Hein. Nous sommes face au génie.
Vous m'avez devancé, Francesco Chiabotti, sur l'auteur lui-même et sur l'homme, et qui n'est plus de ce monde, qui a quitté ce monde le 17 septembre 2015. Nous en parlerons davantage. Je vous laisse, si vous voulez bien, finir votre réponse.
Oui.
Et je poserai la question à Cédric Paillot concernant Shahab Ahmed.
Tout à fait. Alors, disons que j'ai posé cette articulation entre le projet de Mohamed Harkoun de chercher le purement humain. Et en fait, nous sommes face avec Ahmed à une pensée plus complexe, sans rien enlever à Mohamed Harkoun, mais parce qu'elle cherche constamment le lien entre l'humain et la réalité du révélé. C'est ça qui l'intéresse. Il va poser, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite, mais un certain nombre de questions, de la structure du livre, hein, qui pose déjà en ouverture de ce texte, dans lequel il va relever des contradictions ou des questions ou des dialectiques entre ce qui est apparemment pourrait paraître non islamique dans sa matière textuelle, théologique, si vous voulez, mais qui en fait est constitutif de l'islam comme civilisation et comme question. Et donc, il dépasse, c'est ça la force du livre, il va dépasser cette confrontation entre l'humain et divin pour regarder vraiment l'articulation de comment l'humain se définit par rapport au divin. Et donc, il va poser un certain nombre de macro-questions sur lesquelles on va revenir certainement.
Oui, certainement, quand vous dites si bien. Cédric Baylock, de son vivant, c'est vrai que Shahab Ahmed va être atteint d'une leucémie foudroyante et qui, malheureusement, très tôt, vers l'âge de 48 ans, puisqu'il est né en 1966, va être ravi d'abord à sa famille, à la communauté scientifique, mais ses collègues, ses professeurs, ses amis parlent de cet ouvrage dès quand il était déjà manuscrit et après quand il présentait certaines conférences comme quelque chose qui fera date et qui deviendra un classique et qui sera la base de discussion pour d'autres colloques, congrès et d'autres ouvrages à venir. Qui est exactement Shahab Ahmed?
Oui, c'est son legs, paix à son âme. Il avait publié auparavant, il est décédé avant l'âge de 50 ans, et vu l'ampleur, comme le disait Francesco, de cet ouvrage, on peut le considérer même comme un universitaire précoce. Après, il a fait carrière aux États-Unis, et il était relativement bien inscrit dans le champ, et surtout, en fait, ce qui fait date, ce qu'on relève, bon, c'est une vraie bibliophilie, hein, comme l'évoquait Francesco. Alors, dans le champ de la connaissance de l'islam classique, de la philosophie islamique, ou alors dite islamique, c'est justement ce qui est questionné, mais aussi, vous avez des historiens français, je crois Lucien Febvre, qui est questionné, et puis d'autres ouvrages sur l'histoire des idées plus générale. Et je pense que ce qui fait date, puisque vous l'évoquiez dans votre précédente question, et vous le demandiez à Francesco, c'est que, alors, l'ouvrage, je trouve, repose beaucoup sur le qui est foisonnant, donc c'est difficile de le synthétiser, mais il repose beaucoup sur le questionnement de l'articulation entre philosophie islamique ou philosophie en islam, charia, normes religieuses et ésotérisme, qui sont des productions symboliques et pratiques très dissemblables et qui pourtant sont réunies sous le même intitulé ou à qui on accole le qualificatif islam ou islamique. Et donc ça peut apparaître contradictoire de prime abord. C'est ce qui est en fait évoqué dans les six questions que mentionnait Francesco précédemment, mais forme pourtant un ensemble islamique, entre guillemets, qui est interrogé, questionné. Donc lui, il essaie, pour moi, l'un des apports de l'ouvrage, c'est qu'il réconcilie les approches, textuelles et contextuelles, qu'il réconcilie en partie l'anthropologie ou les sciences humaines et sociales et l'islamologie dans leur définition de l'objet islam, avec une approche assez effectivement inclusive, pluraliste. Bon, j'ai dit que je tenais à ne pas divulgâcher ce que lui propose, mais c'est dans la troisième partie, donc reconceptualisation. Et c'est ça, donc, pour répondre plus directement à votre question, qui fait que cet ouvrage fait date, c'est qu'il y a d'abord un vaste questionnement, une vaste enquête dans la production sur l'islam et comment, dans le champ universitaire, l'objet islam a été approché, étudié, défini, et puis une proposition qui est faite dans la dernière partie de l'ouvrage et qui est relativement pluraliste, ouverte, etc. Ce qui ne choque pas les anthropologues pour qui l'islam est avant tout ce que disent les personnes qui se considèrent musulmanes dans la théorie ou dans la pratique. Et dans le champ de l'islamologie, donc c'est un petit peu différent. Et je laisserai Francesco définir ou répondre à ça, mais il y a de fait souvent eu des hiatus entre la manière dont les sciences humaines et sociales construisent l'islam et la manière dont les historiens de la chose religieuse, de la chose islamique, les islamologues construisent l'objet islam. Là, le mérite, c'est qu'ils les réconcilient en quelque sorte.
Francesco Chiabotti, avant de poursuivre et de parler de l'œuvre et d'essayer de répondre à la question, et Cédric Paulloc qui ne veut pas divulguer ou divulgâcher l'œuvre elle-même, nous le verrons dans tous les cas et nous le devons pour nos auditeurs. Essayons de connaître l'homme avant de voir l'importance de l'ouvrage. Il est d'origine pakistanaise, mais il est né à Singapour de parents qui sont allés là-bas, bien formés. Lui-même et sa tendre enfance et sa première formation a lieu à Singapour avant d'aller aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Il fait partie de cette diaspora savante, indo-pakistanaise aux États-Unis. Son travail universitaire et ses études, il les fait aux États-Unis ou de moins dans le milieu universitaire américain. Donc, il passe des années au Caire, hein, à l'université américaine du Caire. Puis, il obtient son doctorat à la prestigieuse université de Princeton. Et là, il commence à être membre, il commence à travailler en tant qu'enseignant-chercheur à l'école de droit de l'université de Harvard. Et ça, je le souligne parce que je pense que son questionnement sur la normativité en islam vient aussi du milieu. Il était islamologue, avec une formation large en études islamiques, universitaires, mais il avait un contexte aussi professionnel, un milieu qui l'entourait, qui était celui de la d'une faculté de droit aussi. Donc, et ça c'est important parce que on voit très bien à quel point ces questions de normativité sont importantes dans son livre. Il interroge la question de la normativité en islam. Après, de sa vie personnelle privée, on ne peut pas déduire beaucoup de choses. Moi-même, je n'ai pas fait beaucoup de recherches pour savoir quel était son islam, si vous voulez, parce que c'est une question bien évidemment qu'on se pose en lisant ce livre, parce que Jabba Ahmed ne dit pas d'écrire en tant que musulman, mais on sent très bien qu'il parle aussi au nom de sa propre expérience. Et ça, c'est important. Donc, c'est sa perception à la fois du champ universitaire, comment on fait de l'islam un objet savant et scientifique, mais également comment l'islam lui-même, en tant que civilisation et spiritualité, se voit et se traite. Donc, il y a ce double regard, moi, je le sens. Mais voilà, on n'a pas fait des recherches, disons, privées. D'ailleurs, sur Internet, on ne trouve pas grand-chose. Donc, je pense qu'il faut laisser être réservé, disons, sur, comme peut-être lui, il a voulu l'être, sur ce lien entre foi et raison.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous essayons ensemble avec Cédric Bailoc, anthropologue chargé de mission à l'Institut français d'islamologie et chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris, et avec Francesco Chiabotti, maître de conférence à l'INALCO, islamologue lui-même, de répondre à la seule question qui vaille finalement et qui est: qu'est-ce que l'islam? De quoi s'agit-il au juste lorsque nous parlons d'islam? Cher Cédric Bailoc, j'ai cru comprendre que ce qui a poussé Shahab Ahmed à composer son ouvrage, ce sont trois anecdotes que je vous dis très brièvement. La première, c'est qu'il rapporte qu'un savantissime musulman était à côté d'un grand universitaire de Cambridge. Et à un moment donné, lors du dîner, cet universitaire britannique, Cambridge, Grande-Bretagne et non pas Massachusetts, a vu que ce savant musulman est en train de boire du vin. Et il lui pose la question presque outrée en lui disant « Mais vous êtes musulman ?» Et l'autre qui lui répond « Oui, nous le sommes depuis plus d'un millénaire. » La deuxième anecdote, c'est lorsque il est allé au Metropolitan Museum of New York, et là il y avait des œuvres d'une beauté extraordinaire sous le label « Art de l'Islam ». Et il entend quelqu'un en disant « Mais qu'ont-elles d'islamique ces œuvres ?» Et la troisième anecdote, très brièvement, c'est une de ses amies arabes cette fois et qui voulait épouser quelqu'un du sud-est asiatique, musulman ou en tout cas présenté comme tel. Et elle était musulmane, mais son père était plutôt agnostique. Et il appelle le père de du marié ou du futur marié. Ils parlent entre eux et elle était un peu intriguée de connaître la teneur de l'échange entre eux. Et quand ils ont fini, il lui a dit « Ne t'inquiète pas, nous nous sommes mis d'accord, ne sommes-nous pas musulmans tous les deux ?» Et je finis donc les trois anecdotes, et c'est à l'issue de cela que lui-même commence à se poser des questions sur qu'est-ce qui peut réunir et donner de la cohérence à ces trois situations.
C'est un gros ouvrage, mais il faut bien quand même essayer d'accrocher l'intérêt du lecteur avec ce genre de questionnement. Donc moi je les trouve assez habiles, assez bien amenés. Ces anecdotes, et donc après elles débouchent sur un questionnement épistémologique systématique sur les fameuses six questions qui suivent ces trois anecdotes. Et ben oui, en effet, pour questionner ce qui, derrière ces exemples épars, est susceptible de faire unité quant à la définition de l'objet islam. Alors, il le formule un peu plus loin, peut-être on peut lui faire justice et œuvre de mémoire en le lisant dans le texte, si vous permettez, Raleb.
Mais je vous en prie, oui.
Voilà, il le formule ensuite de manière plus académique, par-delà ces anecdotes, en disant que lui, ce qui l'intéresse, c'est de poser la question de comment conceptualiser l'islam de manière unitaire à la lumière de sa diversité. Bon, par rapport aux exemples que vous évoquiez, et que l'objectif de la présentation et de l'élaboration de ces six questions que j'ai mentionnées rapidement a été triple. Alors il dit premièrement, afin de montrer au lecteur que lorsqu'il s'agit de l'islam, il n'est pas tellement question de conceptualiser l'unité face à la diversité, mais plutôt de conceptualiser l'unité face à la contradiction pure et simple. Et donc voilà, il développe. Et ensuite, deuxièmement, pour réorienter la conscience historique du lecteur, afin qu'il comprenne que les affirmations contradictoires des musulmans au sujet de la constitution normative de l'islam ne sont pas le fruit des marges sociales, politiques et intellectuelles des discours des musulmans au sujet de l'islam, mais plutôt qu'elles sont au cœur social, politique et intellectuel des discours des musulmans au sujet de l'islam. Et puis il y a un troisième point qui est développé, mais donc on voit bien l'objectif qu'il y a derrière. En tant que chercheur, on a souvent, sur le terrain ou même dans des textes de théologie, vu l'affirmation que l'islam est un islam wahid, le tawhid étant un principe central de la théologie musulmane. Mais bien évidemment, ce que Shahab Ahmad fait, c'est qu'il... Il questionne ces affirmations, ces assertions par rapport à la réalité existante du pluralisme de l'islam. Et là, je pense qu'on peut revenir à sa biographie. Le fait qu'il soit né à Singapour de parents pakistanais, donc la réalité asiatique, sud-asiatique, finalement le cœur démographique de l'islam. Et ensuite qu'il est basculé donc dans les prestigieuses universités américaines d'Harvard et de Princeton explique cet intérêt pour la pluralité. Donc il n'est pas le seul, bien évidemment, mais qu'il a voulu essayer d'englober dans un seul et même ouvrage de questionner cette pluralité relativement à l'affirmation qu'il n'y aurait qu'un seul islam.
À plus forte raison, Francesco Chiabotti, lorsque lui-même dit qu'il était frappé par la remarque d'une politologue lorsqu'elle dit qu'il y a dans le monde, là, dans cette période contemporaine et en ce moment, pas moins de 300 groupes ethniques dont les populations sont musulmanes. Et avec cette idée que c'est la religion, si ce n'est l'une des deux religions, qui a davantage de peuples, au pluriel, aussi différents et aussi nombreux, 300 groupes ethniques, c'est énorme, qui professent l'islam. Et donc parler d'une culture islamique, comme certains de nos jours, un peu à l'emporte-pièce, est totalement erroné. On ne peut pas réduire ces cultures diverses à une seule.
Il est très attentif à cette diversité démographique, ethnique. Il faut dire que quand on rentre dans l'ouvrage, on n'est pas confronté à ça. C'est-à-dire que finalement, il n'a pas fait une étude anthropologique au sens vraiment ethnographique. Il n'y a pas d'ethnographie dans cet ouvrage. Il reste quand même assez savant, donc si vous voulez, je voudrais présenter ces fameuses six questions que nous avons déjà évoquées, mais sans les nommer.
Oui, je vous en prie.
C'est intéressant parce que finalement, il est quand même assez islamologue, parce que c'était Cédric qui soulevait la question, quel est le propre d'une islamologie, mais finalement on s'intéresse aux textes. Il y a des textes que les élites musulmanes eux-mêmes ont vu comme, disons, fondateurs ou importants. Donc, Je dis des choses de façon très simple. Mais les questions qui traversent cet ouvrage sont des questions qui sont quand même savantes. Je vais les énumérer. Donc la première question est la place de la philosophie, c'est-à-dire comment l'héritage antique est important pour les musulmans. C'est-à-dire ça a été fondateur pas seulement l'héritage de la philosophie grecque, hein, et des autres anciens gestes du monde, duquel l'islam disons, va prendre un peu le contrôle politique, c'est fondamental. Mais comment cela s'articule avec le fait coranique? Donc, et c'est là qu'on voit très bien qu'il ne cherche pas la solution, juste il va présenter la tension entre les deux pôles, comme on l'a, qu'on connaît, hein, il y a des grands penseurs comme Razali, mais ce qu'il veut dire, c'est que ça reste quand même, la philosophie reste au cœur des préoccupations des musulmans, bien après ce qu'on appelle la fermeture de la porte de la réflexion intellectuelle. C'est quelque chose que l'historiographie moderne a démontré comme fausseté.
Et dont on ne peut jamais donner ni la date, ni le lieu, ni celui qui a ordonné cette fameuse fermeture.
Ce serait Razali qui en même temps est philosophe et philosophise par derrière. Voilà, c'est une vision qu'on doit vraiment à une époque. Voilà, on connaît l'historique de cette idée.
Oui. Et Joseph Sharpe, pardonnez-moi, c'est parce que le sujet est important. Oui. Joseph Sharpe disait dans un article connu à Studia Islamica que voilà la genèse une petite genèse d'une grande fiction. Et c'est là où il dit que la fameuse fermeture des portes de la réflexion intellectuelle et cérébrale est une fiction.
Est une fiction qui servait deux causes. On s'éloigne un peu, mais Cheikh Ahmed en parle. Qui servait deux causes. Celle du réformisme islamique, hein, qui voyait qui se constituait comme enfin on peut réfléchir, pour revenir finalement au texte fondateur. Mais c'était leur façon de voir les choses, et j'ai aucun jugement. Hein, on est au début du XXe siècle, des personnages connus, et aussi la colonisation. C'est-à-dire, c'était le regard des Européens qui voyaient purement de la répétition. Voilà, les premiers chercheurs à partir du XVIIe siècle, qu'on va constituer des bibliographies, des bibliothèques immenses de manuscrits arabes, remarquaient beaucoup de répétitions dans les textes, dans les manuels d'apprentissage. Et on a mis quand même beaucoup de temps à saisir l'évolution sur la longue durée de la pensée, la place de la philosophie également dans la théologie, c'est-à-dire que cette théologie va être imprégnée par des concepts comme l'existant nécessaire pour Dieu, wajib al-wujud, qui vient quand même d'Ibn Sina, d'Avicenne, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est là qu'il rentre dans une articulation très importante, c'est la place, disons, de la géologie du discours sur la sainteté, qui est fondamentale dans le monde islamique, place qui est remise en cause par certains courants, toujours le même, anti-spirituel. Mais lui, il, Cheikh Ahmed ne veut pas chercher, disons, une ethnologie du soufisme, des pratiques populaires. Donc voilà, il rejette entièrement ces dichotomies entre islam populaire et islam savant. Il s'intéresse à une question qui est épistémologique, c'est-à-dire en quoi la littérature que je vais appeler de façon un peu, disons, rapide, du soufisme, amène un discours sur le réel. Et quel est donc l'apport de cette expérience et de ce legs finalement dans l'histoire islamique. Donc, en arabe, la haqiqa, c'est ce prétexte, c'est la réalité qui est avant le texte, même avant le Coran, qui est Dieu lui-même, mais pas dans sa réalité absolue et non connaissable, mais à partir du moment où il est connaissable, il devient connaissable, donc il révèle, mais cette révélation n'est jamais finie. Il continue de se révéler à chaque instant aux hommes et aux femmes. Donc, le soufisme prend au cœur, disons, ce problème de connaissance. Le troisième point, c'est la synthèse des premiers deux, philosophie. Soufisme, on a après donc, toute la pensée métaphysique développée dans deux courants, donc l'école de l'illumination, la hikmat al-ishraq, la sagesse illuminative, dans son Rawardi. Et après Ibn Arabi, qui était soufi, mais quand même qui se détache un peu par l'importance qu'il a pris dans la pensée spirituelle, celle de l'unicité de l'existence, wahdat al-wujud. Et donc on passe d'une philosophie qui imprégnait d'expérientiel, c'est l'expérience de la vérité. Les points suivants sont plus de culture, mais encore on va voir qu'il reste très attaché à ces deux axes épistémologique de l'islam. Il parle de la question numéro 4, c'est sur la poésie amoureuse.
Surtout chez chez Hafez de Shiraz.
Exactement. Mais la question qu'il pose ici est de savoir dans quelle mesure une littérature amoureuse érotique constitue un trait caractéristique d'une civilisation, autant que nous devons notre identité et notre histoire à des monuments qui sont littéraires, qui sont poétiques, mais qui sont aussi des discours d'amour. Et donc ça, il a le courage de le dire. L'islam porte une réflexion fondatrice sur l'amour. Le point 5, c'est sur l'art, donc la place de l'art. C'était le fameux anecdote dans une galerie, dans une section d'art islamique. C'est quoi qui fait de cet art un art islamique? Et c'est là qu'il va vraiment rentrer dans une réflexion profonde sur l'apparente contradiction entre religieux et séculier. Et le sixième point répond aussi à l'anecdote sur la consommation du vin. Également, là, il va développer la place de la symbolique du vin dans la civilisation islamique. Voilà. Moi, je voulais dire qu'en tant que chercheur, un mystique musulman, c'est bien évidemment le deuxième point qui m'a le plus frappé dans cet ouvrage. Comment il traite la question de la mystique.
Et vous, Cédric Bailoc, comme anthropologue, à la fois la diversité des peuples ayant embrassé la religion islamique maintenant et à travers l'histoire sur une vaste étendue terrestre et ces questions fondamentales, les six, comment vous voyez l'articulation de cette diversité puis les réponses ou les tentatives de réponse à ces six questions?
Oui, mais c'est là où on voit peut-être le partage des tâches disciplinaires en quelque sorte, parce que je comprends qu'en tant qu'historien islamologue, Francesco ait été sensible particulièrement aux trois premières questions, et c'est vrai que c'est à la fois intéressant et courageux d'avoir pointé ces éléments comme faisant tout autant partie de la définition de ce que pourrait être l'islam que d'autres, plus théologico-théologiques, disons. Et pour ce qui concerne l'anthropologie, les sciences humaines, c'est plus les deux dernières questions. Donc la question 5 sur la culture islamique. Y a-t-il une culture islamique? Et voilà, il explique comment et notamment à travers l'exemple de l'art dit islamique, ce syntagme a pu être questionné. Voilà. Et toujours, lui, dans son approche plutôt inclusive. Et donc, par la suite, il traite aussi notamment de l'aniconisme pour montrer que ça a toujours été relativement... l'usage des images a toujours été relativement condamné, mais pourtant, il y a eu une production, bon, notamment, on le sait, la statuaire persane, la production d'images, etc. Et pourquoi tout cela ne serait pas également inclus dans la définition, la conception large qu'on peut avoir de l'islam et de ce qu'il a produit. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a une forme de réconciliation entre certaines conceptions, certaines approches de l'objet islam.
Pour lui, le plus important, ce n'est pas tant réunir dans une forme d'une unité de toutes ces diversités, mais quand même avoir plus de cohérence dans ce qui s'apparente à une forme de contradiction insurmontable, alors que pour lui, il y a peut-être quelque chose d'englobant dans le fait islamique.
Oui, c'est-à-dire que l'approche académique, bien sûr, ne peut pas mimer l'approche théologique avec la notion de shumulia, de l'islam comme tout englobant, et donc qui pointe plus spécifiquement les éléments relevant des sciences religieuses classiques pour définir l'objet islam. Voilà. Là, on est effectivement dans une autre démarche. Et je dirais que en plus, cet aspect pluriel et inclusif et large va dans le sens de ce qu'on fait ces dernières années dans le champ académique. Mohamed Ali Amir Moezi, que vous avez reçu, Raleb, parle de révolution philologique qui étend la compréhension de l'objet islam et le rapport à la construction de la tradition. Dans des articles récents, Christian Robin, et notamment je fais référence à un autre ouvrage qui est le premier ouvrage collectif issu d'un colloque qui a été organisé par l'Institut français d'islamologie, l'islam et l'examen scientifique du Coran. Bon, ben, Christian Robin montre que les recherches récentes en Arabie Saoudite, l'ouverture justement à l'archéologie, notamment par le pouvoir saoudien, ouvre des champs assez intéressants qui vont dans le sens de cette approche assez plurielle et pluraliste. Et on pourrait citer tout un tas de projets. Alors, je vais paraître un petit peu corporatiste, je parle de ma maison, l'Institut français d'islamologie, mais justement qui a beaucoup fait ces dernières années pour développer le champ et la pluralité des approches. Mais voyez, par exemple, on a un projet dirigé par Cyril Ayer de Lyon 2, intitulé « Faire société, modèle normatif et hétéronomie dans les islams minoritaires ». Vous voyez, et donc des ouvrages comme celui-ci ou des projets de recherche comme celui-ci, vous avez reçu aussi récemment Fares Gillon sur l'ismaélisme, je crois, tendent à rejoindre finalement les intuitions et même les convictions de Shahab Ahmad, que ces objets-là peuvent tout autant éclairer finalement ce qu'est l'islam. Sinon plus peut-être que les ce que l'on appelait classiquement l'islam.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous essayons de répondre à la question « Mais qu'est-ce que l'islam ? De quoi s'agit-il au juste lorsqu'on prononce le vocable islam ?» Pour répondre à cette question, nous avons Francesco Chiabotti, maître de conférence à l'INALCO, lui-même islamologue, fin connaisseur de toutes les voies soufies et de l'ésotérisme islamique, et Cédric Paulloc, qui est anthropologue, chargé de mission à l'Institut français d'islamologie et chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris. Pour cette dernière partie, Cédric Paulloc nous a parlé, vous nous avez dit qu'il y a des ouvertures suite ou dans le sillage de l'ouvrage de Shahab Ahmad, avec la révolution philologique, la recherche archéologique, il y a aussi cette histoire matérielle, et puis la relation entre l'islam périphérique et l'islam central. Pour vous, Francesco Chiabotti, y a-t-il déjà une distinction à opérer, et si elle a lieu, depuis quand a-t-elle eu lieu, entre un islam arabo-centré et un autre islam dit périphérique, mais qui est celui-là le plus important?
Comme vous le dites dans cette dernière remarque, qui est perturbée par des conceptions qui sont sous-jacentes, qui sont parfois non raisonnées, hein, qui font partie de l'inconscient collectif, hein, d'une civilisation qui perçoit l'islam comme quelque chose d'autre, hein, de l'autre. Donc, on essaie de le réduire à quelque chose d'assimilable à une ethnie. Donc, la question, historiquement, elle est bien plus complexe parce que ces ethnies ont été, dès le départ, mélangées. Dès le départ, ces ethnies ont entretenu des rapports de force qui ont donné lieu à des changements dans le pouvoir. Donc, bien évidemment, l'islam commence comme une religion arabe, c'est factuel, qui s'étend sur des zones dans lesquelles les Arabes étaient une minuscule minorité. Et petit à petit, l'islam va devenir la religion de ces peuples. Et donc, on aura des pôles dans lesquels des cultures, mais pas des ethnies, des cultures et des langues différentes vont s'exprimer. Mais dans la culture persane, vous pouvez avoir des ethnies bien plus riches que les seuls iraniens, quoi, par exemple. C'est une culture, c'est une ère culturelle. C'est une ère qui va s'exprimer avec la langue persane, et cette expression persane peut atteindre jusqu'à l'Indonésie. Et dans ces macro-zones d'expression d'une culture, et pas seulement religieuse, mais aussi poétique, vous pouvez avoir lentement des phénomènes de vernacularisation des savoirs et des expressions artistiques. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît sous l'Europe, qui advient au Moyen-Âge européen, hein, avec l'admission de la langue vulgaire, c'est-à-dire de l'ancien français, de l'ancien italien, de l'ancien allemand, comme langue savante, au même titre que le latin. Ben, ce phénomène le développement d'une langue populaire vers une langue savante, capable de porter même une théologie et une mystique, on l'observe également en islam. Donc je n'ai pas peut-être répondu très correctement à votre question, mais c'est ça qui est... C'est ça le point sur lequel nous devons faire très attention.
Non, je vous en prie, vous avez répondu en tout cas à la question. Et puis, je dois vous dire et annoncer à nos amis auditeurs que nous avons perdu Cédric Bahuloc. Donc, je le regrette et je finirai l'émission avec vous. Sur deux points, si vous pouviez répondre. À l'ère de la mondialisation, de la révolution numérique, maintenant de l'intelligence artificielle, et que l'islam est mobilisé, notamment par une certaine jeunesse, comme une affaire identitaire supranationale, qui sévit davantage sur les réseaux, pour certains asociaux, ceci ajoute à l'incompréhension sur le mot, sur le vocable et sur aussi la destinée de cette tradition religieuse et la civilisation qu'elle a sous-tendue à travers l'histoire et qu'elle continue à avoir, même si maintenant nous parlons d'une civilisation humaine.
Alors, c'est une question complexe. Vous avez bien dit que je suis plutôt de formation islamologue, médiéviste, même si je suis arrivé au 19e siècle. Donc, dans ma pratique, disons, intellectuelle d'études, d'analyse de l'islam, je suis très réservé sur le monde contemporain qui, je ne dis pas qu'il m'échappe, mais sur lequel je peux avoir plus un regard de citoyen que de chercheur. Donc, vous savez bien qu'il y a des spécialistes du monde contemporain et des spécialistes, entre guillemets, des mondes anciens. Donc, mais je ne vais pas esquiver la question. Ce que nous observons aujourd'hui, je pense, est que devrait être plus clair chez nos institutions et dans nos rapports avec... avec l'État, et que nous avons, disons, c'est pas juste une mondialisation comme ça vague qui s'opère par notamment par les réseaux, notamment par l'internet qui produit, disons, une base de référence assez pauvre, assez massive, répétitive. Mais il y a au-delà de ça, il y a des phénomènes réels qui sont les nouvelles zones d'influence religieuse. Et ce sont des macro-régions qui opèrent. Vous avez donc notamment des islams qui ont des centres de diffusion qui sont bien réels, qui sont pas du tout issus des réseaux. Ils peuvent s'appuyer sur les réseaux, mais la réalité est bien plus articulée. Et notamment, par exemple, on peut penser à le travail que le Royaume du Maroc fait pour devenir un acteur incontournable dans toute une région extrêmement vaste, notamment en Afrique, en tant que référence religieuse, donc qui n'est plus l'islam marocain, ça va devenir un islam macro-régional. Et dans ces macro-régions, donc, vous avez d'autres projets, notamment les pays du Golfe essayent de jouer une carte dans cette réforme. Vous avez des universités qui essayent de se présenter comme, disons, une évolution vers les sciences humaines, au détriment, bien évidemment, du projet purement saoudien wahhabite, qui officiellement, disons, semblerait être ne plus connaître, disons, les fastes qu'il avait pu connaître avant. Et vous avez aussi d'autres zones d'influence, notamment par l'Iran, en ce qui concerne l'islam chiite, et d'autres. Donc, disons que je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas non plus penser que l'islam, vu notre branchement dans le web, devient que du web, c'est pas vrai. Il y a quand même des agents réels qui sont là pour structurer, pour influencer les croyants. La vraie question est après de savoir que reste finalement, c'est une question pour moi ouverte. Revenons en France aujourd'hui, on s'éloigne un peu du livre, mais c'est important. Dans les musulmans d'aujourd'hui, est-ce que ces références classiques ont encore du sens? Et si elles n'ont plus du sens, c'est-à-dire si mon identité, les segments qui constituent mon islamité ne sont plus ceux de mes grands-parents, donc qui suis-je? Donc qu'est-ce l'islam? Et là, je voudrais revenir un peu au livre parce que peut-être on ne l'a pas dit, mais le titre français a été changé. A été changé pour des raisons très intelligentes par l'éditeur. Parce que What is Islam? Qu'est-ce l'islam? Ça, c'est le titre. Le sous-titre anglais était The Importance of Being Islamic. C'est-à-dire de l'importance d'être islamique. Alors, si je propose ça en France, imaginez-vous la réaction. Hein, ça devient un livre militant, un livre islamiste. Tout de suite, on va rajouter le ist islamiste. Alors que, et bien évidemment, on cherchera, même si rien ne le justifie, du frérisme dans ce livre. Et alors, l'éditeur a eu la très juste proposition de dire à la recherche d'un nouveau paradigme, parce que c'est ça le sens de l'enquête. C'est pas chercher vraiment la définition de l'islam, c'est irréductible, donc on est face à un phénomène mondial millénaire, donc très complexe. Mais c'est de comprendre quels sont les éléments constitutifs de cette islamicité, de l'importance d'être islamique. C'est quoi qui rend une chose importante au point qu'on dira que cette chose est islamique? Voilà, c'est ça le projet du livre.
Oui, merci infiniment Francesco Chiabotti de l'avoir rappelé. Disons que, en tout cas, cet ouvrage commence à déjà faire débat aux États-Unis. En France, il reprend grâce à sa parution et sa traduction française. Il a déjà eu des colloques il y a quelques semaines, d'autres à venir en juin et en septembre prochain, pour effectivement essayer de répondre à cette question cruciale, qu'est-ce que l'islam? Merci infiniment. Je remercie à travers les ondes maintenant Cédric Paulloc. Merci à vous Francesco Chiabotti. Chers amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. C'était Question d'islam. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Dophal Guérit. Et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.